RMC.
Bounce card right to Jordan. Time winding down. Michael for three. Yeah! Yeah! Yeah!
Basket time.
Final seconds. Bryant for the win.
Pierre Dorian.
Basket Time sur RMC, c'est parti pour votre rendez-vous basket du mardi en podcast sur rmc.fr avec la Dream Team, Stephen Brun, Fred Weiss et Alex Biggerstaff. Salut les gars.
Bonjour, bonjour.
Salut mon petit Pierrot.
Évidemment, on va parler des trades. Il y a eu beaucoup de mouvements, des choses très intéressantes. Par exemple, Harden et Embiid peuvent-ils jouer ensemble? C'est quand même le plus gros move, non, Harden aux Sixers?
C'est le plus gros move. Moi, je m'attendais à un move, un transfert de Pierre Dorian à France Bleu Savoie, mais finalement, ça s'est pas fait. Moi.
Non, parce qu'il y avait personne à échanger pour faire un contrat similaire. Il fallait 7-8 personnes. Donc, à un moment, il n'y avait plus personne pour bosser. Ils ont dit non. Avant ça, qui est le grand gagnant des trades? Tout de même, on va refaire le bilan, hein, parce que, comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de mouvements. Qui est le grand gagnant? On peut se demander aussi qui est le grand perdant. Hein. Il y a forcément des perdants dans l'histoire. Quoique, parfois, ça se combine bien. Parfois, tout le monde est gagnant. Ça arrive.
Des deals gagnants.
Ça
n'arrive pas toujours, ça, quand même.
Et puis, vous allez me dire, avec votre grande culture de ce sport et de cette ligue, quel est le trade le plus significatif de l'histoire? De l'histoire de la NBA. Il y a eu quelques moves intéressants. Hein,
oui, bien
sûr. Allen Iverson, et Carmelo Anthony.
Rachid Wallace.
Des Dwayne Wade, des LeBron James. Il y en a plein. Des Rachid Wallace, ouais. Rachid. Il est bien seul, Fred, parce qu'il a
les LeBron James, je suis pas sûr qu'il ait déjà été tradé avant la trade deadline.
Mais bon, ça fait partie des moves quand même importants.
C'est pas pareil, les moves à l'intersaison et avant la trade deadline, mon petit Pierrot.
T'es déjà de mauvaise humeur, mon...
Ah, mais soyons précis, mercato hivernal, mercato estival.
Alors, il y aura un quiz spécial trade, donc autant vous dire que je suis pas très fier de mon quiz.
Pourquoi?
Je vous le dis, je fais pas un teasing de fou. Non, mais trop dur, oh. Trouver des choses intéressantes, qu'apprennent des trucs à nos fidèles auditeurs. C'était pas facile, Fred-il. C'est pas facile. Et puis vous allez être énervé. Je sens que toi, tu vas être énervé sur certaines questions.
Plus les mardis passent, plus j'ai l'impression que t'es pas convaincu par ça.
Non, la semaine dernière, il était top. Il était très bien, le quiz.
Une exception.
Fait en 5 minutes. Plus je les torche, mieux ils sont, en fait.
Ça veut dire que celui-là, tu l'as commencé hier.
Celui-là, il était long à préparer. Très long à préparer. Très long à préparer. Est-ce que vous voulez, je offre un petit cadeau là. Bon, c'est de la NBA, mais est-ce que vous voulez faire un mini débat sur la mi-temps du
Super Bowl? On peut, si tu veux.
Non, mais vite fait comme ça, parce que toi, t'es fan de rap, Alex, quoi.
Je crois que les avis divergent, hein, vraiment.
T'as apprécié ou pas?
Moi, j'ai apprécié. Après, j'ai dit adieu à ma jeunesse dans la nuit de dimanche.
Oui, ils sont fatigués, les papiers.
J'ai vu qu'ils étaient un peu vieux, du coup, ça m'a vraiment vieilli, moi aussi.
Fred.
J'ai un peu pris un coup de vieux aussi, moi, c'est des mecs que j'adorais, enfin, des mecs et des nains que j'adorais, et c'est vrai que ça a été un peu dur de les voir comme
donc,
ça.
Donc, pas convaincu ni l'un ni l'autre?
Moi, ils m'ont convaincu.
Parce que c'était plaisir, c'est la nostalgie, mais c'est vrai qu'au moins,
Il y a quelques mecs qui ont sorti des lignes de stats pas très folasses.
12 sur 20 pour moi.
Ouais, très
content,
moyen.
Content de revoir ces mecs-là chanter. Bon, après, j'ai trouvé Snoop fidèle à lui-même. Et toujours son petit Seawalk, ce petit pas de danse avec son petit jogging bien brillant.
Par contre, ce qui était réussi, c'est la tenue de Snoop Dogg quand même.
Bien sûr. Est-ce que t'as vu cette vidéo en régie où Snoop Dogg, avant de monter sur scène, il se prend 2-3 taffes de bédo quand même avant d'aller poser un petit couplet? Non, mais sinon, j'ai trouvé. Rien à voir, des années-lumière derrière le show de Prince. Tu te rappelles du show de Prince au Super Bowl?
C'est vieux, ça, dis donc. C'était quelle année?
C'était exceptionnel, je sais pas, dans les années 90, non?
Allez, Basket Time, c'est tous les mardis en podcast sur rmc.fr. Vous pouvez vous abonner pour être sûr de n'en rater aucun. Et on démarre donc avec cette trade deadline qui a rebattu les cartes.
The 2022 NBA trade deadline is over, and it's been one of the most exciting in a few years.
So I'm going to go through and grade the 5 biggest moves of the 2022 NBA trade deadline.
As we saw, the Philadelphia 76ers finally traded Ben Simmons away. In a trade of Ben Simmons, Seth Curry, Andre Drummond, and 2 first-round picks for James Harden and Paul Millsap to the Brooklyn Nets.
And that is Kristaps Porzingis going to Washington in exchange for Davis Bertans and Spencer Dinwiddie. Next up, we'll talk about the CJ McCollum trade, in which New Orleans acquired CJ in exchange for some young players and a future pick.
Alors, vous avez reconnu la voix d'Arnaud Valadon qui est parti aux États-Unis pour suivre sa carrière. Je dis ça parce que ça fait un moment qu'on n'a pas eu Arnaud dans cette émission.
Arnaud Valadon, il est occupé par les Jeux Olympiques
et du basket sur glace. Là.
C'est le spécialiste de basket qui fait jamais un match de basket, vous avez remarqué. Bon, j'espère qu'il écoutera ce podcast.
Il commente le curling comme s'il commentait du basket.
Oh, le le contre de Batman. Bon, c'est quand même l'homme qui restera dans l'histoire que, comme le commentateur du fameux contre de Nico Batum, hein, pour la médaille
ça, c'est pareil,
olympique. Alors, Alex, est-ce que tu peux nous faire un petit rafraîchissement là?
Un petit, parce que il s'est passé.
Qu'est-ce qui s'est passé? Maverick Wizard, les Pelicans, Nets, Sixers pour l'essentiel.
On démarre par le plus gros buzzer quand même, bien celui sûr. Entre Philadelphie et Brooklyn qui a envoyé James Harden et Paul Millsap du côté de Philadelphie. Le rêve de Daryl Morey, le GM des Sixers, s'est enfin réalisé. Il va renouer sa conversation d'époque à Houston avec son chouchou James Harden, mais dans le sens inverse. Est-ce que Brooklyn s'en sort pas plutôt mal aussi, plutôt bien, je veux dire, avec Ben Simmons, avec Seth Curry, avec André Drummond et aussi quelques petits tours de draft en poche également. Et puis ça restera comme le trade qui finira sur cette phrase entre Daryl Morey et Sean Marks, les deux GM. Stay on the fucking phone, parce qu'il l'a harcelé toute la journée pour pouvoir faire le deal. Ensuite, il s'est passé d'autres trades assez intéressants, notamment Tyrese Haliburton en pleurs qui doit quitter sa franchise adorée Sacramento pour rejoindre Indiana. Dans le sens inverse, c'est Domantas Sabonis qui arrive en tant qu'intérieur du côté des Kings. Il y a eu Dallas qui a enfin pu se débarrasser de Kristaps Porzingis et d'un second tour de draft contre Spencer Dinwiddie des Washington Wizards, mais aussi un autre laiton, Davis Bertans qui fait le chemin inverse. Et puis on peut citer également à l'Est Charlotte qui a réussi à s'attacher les services de Montrezl Harrell contre Ish Smith et Vernon Carey, donc ils s'en sortent plutôt bien aussi pour alimenter la Melo Ball et Miles Bridges. Et puis enfin, à noter qu'il y a eu le seul trade à 4 équipes, les fameux blockbuster trade, le seul trade à 4 équipes de la saison qui a envoyé DiVincenzo de Milwaukee, Josh Jackson, Trey Lyles notamment à Sacramento, Marvin Bagley part à Détroit, Milwaukee récupère en tant que contender un certain Serge Ibaka qui a une sacrée expérience. Et enfin, les Clippers aussi atterrissent dans ce trade avec Rodney Hood qui arrive notamment et Semi Olajide. Est-ce que je termine par celui de New Orleans qui était un petit peu plus tôt dans la semaine avec CJ McCollum qui est échangé, voilà, qui a dit adieu enfin à Damien Lillard qui part au New Orleans Pelicans pour renforcer l'équipe de Zion Williamson. Et en sens inverse, Josh Hart, Thomas Satoransky et Didi Luzzaba qui renforcent eux de leur côté Portland alors que Nickeil Alexander Walker était dans le trade mais lui est parti du côté du Utah Jazz.
Alors, ça en fait beaucoup.
C'est énorme, c'est interminable.
Alors, on va pas évidemment tout détailler. Alors, on va en parler plus précisément hein, de Harden aux Sixers et de ce que ça implique pour Philadelphie dans quelques minutes. D'abord sur les échanges comme ça, avant que ça soit concret sur le parquet. Qui vous semble avoir réalisé le meilleur deal et est-ce que ça change quelque chose à la saison et aux favoris pour le titre, Fred?
Moi, j'ai l'impression que le gros deal Sixers-Nets, c'est plutôt intéressant pour les deux, en fait.
Pour les deux.
Ben, en fait, t'as Harden qui a plus envie de jouer, qui fait un peu la tête et ça se passe pas très bien, qui va aux Sixers où tout le monde l'attend. Donc, c'est génial, de ce point de vue-là. Et Simmons, qui ne joue pas pour les Sixers, arrive aux Nets et il va pouvoir jouer, il va pouvoir se relancer un petit peu. En plus, dans ses bagages, il amène Seth Curry et André Drummond.
Moi, j'ai l'impression que c'est quand même un deal gagnant. Là, ça fait quand même trois gros joueurs. Hein,
ben, pour moi, c'est un deal gagnant quand même, sur ce coup-là.
C'est pas.
Après, Seth Curry, moi je trouve que c'est un petit peu trop peut-être. Un poil trop parce que c'est...
Ouais, les Sixers se dépoilent pas un peu trop.
Ils se dépoilent un petit peu en donnant Seth Curry, mais sinon je trouve que c'est plutôt intéressant.
Après, peux dire que Drummond, il a été vraiment important lorsque Embiid était absent.
Ouais, Drummond était quand même, je pense, le meilleur backup en NBA. Quand t'avais André Drummond en sortie de banc, quand jouait l'Embiid se reposer, c'était monstrueux. Maintenant. Gagnant-gagnant, je ne sais pas, parce que je pense que pour Brooklyn, ce trade, il ne va pas avoir un impact immédiat. Je pense qu'il aura un impact dans le futur, parce que cette saison, pour moi, je ne suis pas sûr qu'elle est... Je ne vais pas dire morte, mais je ne suis pas sûr qu'ils vont réussir cette saison, parce que Simmons, malgré tout, ça fait 8 mois qu'il n'a pas joué un match en 5-5, que Kevin Durant est encore à l'infirmerie, que Kyrie Irving joue un match sur deux, puisqu'il ne joue pas les matchs à domicile. Donc, ça me paraît compromis pour cette saison. Par contre, pour le futur, parce que ces mecs-là sont encore sous contrat, Brooklyn a fait une belle affaire.
C'est-à-dire mais quand je parle de gagnant-gagnant, je ne parle pas forcément l'instant.
Ouais, sur les 2-3 prochaines années, cette équipe, quand tu as une base Durant, Irving, Ben Simmons, c'est monstrueux. Voilà. Après, pour les
Durant, Sixers, Irving, Ben Simmons, tu dis monstrueux.
Monstrueux.
Quoi. D'accord.
Monstrueux.
Ben
Simmons, tu le mets où tu veux, en fait. T'as Irving, meneur, Kevin Durant, poste 3-4, et Ben Simmons, tu le fais jouer, là, t'as envie de le faire jouer. Donc cette base-là, elle est forte. Maintenant, les Sixers.
Plus Curry, plus Drummond. Griffin va sortir au bout d'un moment, non?
À un moment donné, Blake Griffin, il va falloir qu'il aille travailler sur ESPN. mais pour les Sixers, la perte de Seth Curry, oui, mais ça va permettre à Tyrese Maxey de se décaler sur son vrai poste, qui est un poste d'arrière-scoreur qui est pas un énorme organisateur, Tyrese Maxey, il va laisser la main à James Harden. Donc je pense que les Sixers, c'est un impact immédiat, et les Nets, par contre, vont être affolants pendant deux ou trois saisons.
Et dans les autres trades, il n'y a rien de significatif, Alex ?
Il y a des bons élèves hein, quand même, je pense, sur cette deadline. Et je reviens encore une fois sur Cleveland parce que ça faisait partie aussi des trades. Mais Caris LeVert s'est passé un peu inaperçu, ouais, même si on en avait parlé nous dans le podcast. Et Cleveland qui se renforce là-dessus. Indiana qui fait le ménage également et qui récupère, je pense, vraiment un joyau en la personne de Tyrese Haliburton. Tout le monde a été choqué par ce que les Kings ont fait et de lâcher un garçon qui était tellement attaché à la franchise. Et puis pourquoi lui et pas De'Aaron Fox ? Voilà, beaucoup de questions autour de celui-là.
Contrat de De'Aaron Fox, Tyrese Haliburton qui est son contrat rookie. Il y a un trade qui est peut-être passé inaperçu et qui pour moi peut éventuellement changer la donnée sur le titre de champion, même s'ils étaient déjà favoris. C'est l'arrivée de Serge Ibaka aux Bucks. Serge Ibaka, j'ai discuté avec Nico Batum hier, avant-hier.
D'un insider. L'insider de
avant qu'il parte au Super Bowl, non, parce que je lui avais envoyé un message, je dis, oh, Luka Doncic, tu vous as mis 96 points de match sur la truffe quand même. Et donc il m'a appelé, il m'a dit, ah mais Steph, je vais t'expliquer le plan de Tyronn Lue, bref. Et après, on a dévié sur Serge Ibaka, que je pensais cramé. Il m'a dit, écoute, moi aussi, je le pensais cramé, mais en fait, il avait plus envie d'être Clippers parce que c'était une équipe où il n'y avait pas de gros objectifs. Ils n'allaient pas être champions. Et Serge Ibaka, il arrive à un âge où il a envie d'être dans une équipe où, éventuellement, il peut prétendre à avoir une bague. Il me dit, Serge Ibaka, il va être très bon aux Bucks avec l'incertitude du retour de Brook Lopez qui n'est toujours pas revenu depuis son opération. Il va apporter du spacing, du tir à trois points de la défense et ça va libérer la raquette en plus pour Giannis Antetokounmpo. Donc, je pense que c'est un gros apport de
Ibaka. Eux qui étaient déjà très forts et quasiment favoris pour le titre, ils se renforcent encore. Ils ont perdu qui ? DiVincenzo, c'est ça ?
DiVincenzo.
Qui est un joueur de complément, on est d'accord ?
Ouais, qui va être prometteur pour Sacramento parce qu'il va pouvoir vraiment avoir du temps de jeu.
Ils en rêvent depuis longtemps, on a dit. Ouais.
Et ils ont surtout perdu Pat Connaughton, par contre, sur blessure. Ça peut jouer dans
Mais sinon, on n'a pas parlé aussi du désaveu complet de Porzingis. Hein.
Alors, Porzingis, parlons-en, t'as raison, parce que Porzingis, qui était censé être une bonne pioche pour New York, ils s'en sont débarrassés. À Dallas, ça le fait pas, ils s'en débarrassent. C'est un mystère, ça.
C'est un mystère. Non, Mark Cuban, il avait annoncé, il a défendu son duo en plus, etc. Mais voilà, clairement, le signal, il est fort. Hein, pour moi, du côté de Dallas, le signal est fort. Parce que la contrepartie, elle est pas ouf. Parce que Dinwiddie,
c'est
pas
un bon joueur, non ?
Dinwiddie, non, c'est un bon joueur, mais il était pas sur une très bonne saison, là. Bertans, il est à la ramasse complet.
Mais tu regardes même l'aspect financier, pour l'instant, c'est pas à leur avantage, Dallas, parce que Dinwiddie et Bertans sont plus chers à eux deux que le contrat qu'avait Porzingis, qui était déjà lourd.
Mais deux joueurs qui seront peut-être...
Qu'en pense le fan des Mavericks ?
Je pense que c'est...
C'est un bon move ?
Je pense que c'est un bon move, parce que pour avoir suivi la saison de Dallas avec attention, on s'aperçoit que les chiffres montrent que Dallas gagne autant de matchs avec Porzingis.
Sans Porzingis. Mais là, ça fait beaucoup de shooters, non, dans cette équipe, non ?
Y a un petit embouteillage sur les postes extérieurs parce que j'avais noté ça. T'as Doncic, Jalen Brunson, Tim Hardaway Jr., Reggie Bullock, Spencer Dinwiddie. Donc ça fait beaucoup de garçons sur le poste derrière. Après, tu remplaces un laiton grand qui va pas au rebond, qui tire à 3 points, par un autre laiton un peu moins grand, mais grand, qui va pas au rebond et qui tire qu'à 3 points. Là-dessus, tu perds pas grand-chose.
Tu crois qu'il y allait en voiture à Washington ?
Parce que le laiton est bon conducteur, oui. Et puis je pense aussi que la relation Doncic-Porzingis...
Copyright Jacques Monclar.
Copyright Jacques. La relation Doncic-Porzingis, elle fitait pas énormément. Je crois que Porzingis était blasé de son rôle, qui était un petit peu de deuxième, voire troisième option, et être là pour faire briller Luka Doncic. Donc écoute, on verra ce qu'il donne à Washington. Il est blessé pour l'instant, il n'a pas joué.
Et alors si on se demande maintenant qui sont les grands perdants...
Ouais, ça va vite.
Vas-y.
C'est souvent ceux qui ont pas
bougé. Ça va à l'ouest sévère. Bah, les Lakers sont forcément des très très grands perdants, Pierrot, parce qu'ils ont avoué viser surtout le marché des agents l'été prochain. Mais le problème, c'est que c'est un aveu de faiblesse totale. Ils ont essayé des moves, et dont celui qui quand même est très risible. Ils ont essayé quand même, juste avant la trade deadline, de balancer Russell Westbrook à Sacramento, leurs ennemis quand même, en échange de Buddy Hield, qu'ils avaient snobé en début de saison sur un trade, justement en préférant prendre Russell Westbrook. Donc c'est vraiment un aveu de faiblesse sur lequel Sacramento a mis la petite cerise sur le gâteau en disant, non mais vous êtes vraiment drôle, mais nous on a Domantas Sabonis dans un autre deal avec Buddy Hield, donc ça le fera pas pour Russell Westbrook.
Contre, en termes individuels, il y en a peut-être un qui sait pas où est-ce qu'il a foutu les pieds, c'est Sabonis justement.
Écoute, Sacramento récupère un mec qui est deux fois All-Star.
Franchise où il n'y a plus grand chose.
Il est censé faire un one-two punch avec De'Aaron Fox.
C'est quoi one-two punch, explique-moi.
C'est un duo, quoi.
C'est tout, ouais, d'accord. Ouais. Non, il n'y a pas d'idée de. Il n'y a pas d'idée tactique.
Non.
C'est deux joueurs, quoi.
T'es plus le tip punch.
C'est quand t'arrives pas à faire un big free, tu fais un one-two punch. Donc c'est vraiment cheap, quoi.
Mais écoute, cette équipe de Sacramento. mis à part jouer le play-in, c'est l'objectif prioritaire de cette saison-là. Je vois pas ce qu'ils peuvent espérer plus. Il faut savoir que Sacramento détient la plus longue série de saisons sans play-off, Pierrot. 16 ans que Sacramento n'a pas fait. Ah, c'est magnifique. Bravo. Bravo. Donc, écoute, j'ai regardé le match ce matin, Brooklyn-Sacramento. Ça m'a pas rassuré sur l'entente entre les deux.
Ils ont marqué 85 points.
Ouais. Et Sabonis a été catastrophique. Alors, écoute,
il avait fait un gros premier match.
Gros premier match, mais ça, c'est des
citations. Et les Lakers sont fait snobber par cette équipe-là. Hein. On se rend compte à quel point ça les
prend. Après, les Lakers, ils avaient rien à proposer. Ils avaient que Russell Westbrook. Mais Russell Westbrook, c'est 43 millions cette année et 47 de player option.
Ils ont même pas
pigeon, va dire, je prends Russell Westbrook pour lui lâcher 90 millions sur deux ans.
C'est un vrai fiasco, Westbrook.
C'est un loupé casse-tout.
Surtout avec les déclarations qui continuent. Il a encore dit en interview après match que s'il avait des douleurs au dos, c'est parce qu'il n'avait pas l'habitude d'être assis sur le banc.
Le mec est bon en plus. Hein.
Frank Vogel s'en prend plein la tronche. Anthony Davis, je ne sais plus qui est ce joueur. Franchement, on ne le reconnaît pas du tout. Et enfin, David McMenamin, le journaliste d'ESPN qui est vraiment insider des Lakers, a sorti une petite bombe qui est passée inaperçue. Mais apparemment, les joueurs à l'intérieur du vestiaire ont dit on ne croit plus à un miracle pour la fin de saison. Pour augmenter notre pourcentage de victoire.
Dernière chose, comment est-ce possible? Oui, Steve.
Dernière chose, les Lakers vont tout miser sur Goran Dragic qui vraisemblablement va bénéficier d'un buyout avec les Spurs.
Mais c'est fort ça?
Goran Dragic,
c'est mieux que rien.
Mais il devait aller à Dallas et finalement,
le duel, ça va être Clippers-Lakers pour récupérer Goran Dragic.
Dernière chose, comment est-ce possible, expliquez-nous ça, que Sacramento se sépare d'Haliburton.
Déjà, c'était au niveau du contrat, comme l'a dit.
Contrat rookie. Steve.
Et alors, c'est plus facile à échanger.
C'est plus facile à échanger. Et l'équipe qui récupère a pas à payer parce que le problème de De'Aaron Fox, qui est un meneur de jeu. Pour moi, De'Aaron Fox, c'est dans la même case que les John Wall et les Russell Westbrook. C'est un meneur qui est pas bon sur le tir extérieur, qui défend pas un cachou et qui va à 15 000 à l'heure. Et De'Aaron Fox, c'est un contrat.
Il a super bien vendu.
A signé 165 millions sur 4 ou 5 ans.
Ouais, mais il se flingue quand même.
Il n'y a pas un club qui va trader pour récupérer ce contrat qui, pour moi, est un boulet de De'Aaron Fox. Donc c'est plus facile de
oui, séparer. Oui, soit, mais c'est-à-dire qu'il garde le boulet et qu'il se sépare du joueur qui peut incarner la franchise.
Mais le problème, c'est que c'était deux joueurs qui allaient se marcher sur les pattes avant de Paris Haliburton et De'Aaron Fox.
C'est l'enfer. Pour les fans, c'est l'enfer.
Tu sais que le gamin, il a chialé. Hein. Ouais. Paris Albertini était en larmes quand il a appris que.
Et il récupère Sabonis, le grand Sabonis.
Le grand Sabo.
Qui n'a pas envie d'être là.
Bon courage. Après, il est gagnant.
Sur la qualité de vie, ça va aller.
Et là, il est passé de Doudoun Timberland à Havaianas et Pantacourt.
C'est Basket Time sur RMC, en podcast tous les mardis sur rmc.fr. Et le mystère Harden continue.
At the beginning of this season, if you would have told me that James Harden would be on the Sixers by the trade deadline, I would have thought that you were taking crazy pills.
All right, the big trade of the day, though. It is Ben Simmons heading to Brooklyn and James Harden headed to Philadelphia.
Yep. What is that Sixers offense going to look like when both Joel Embiid and James Harden are on the floor at the same time?
So let's ask the question that's on everyone's mind. Will putting a beard on the process work?
Alors, quatrième franchise pour Harden, quatrième fois qu'on se pose la question de ce qu'il apporte et ce qu'il coûte à son équipe, à ses coéquipiers. Harden et Embiid peuvent-ils jouer ensemble? On va essayer de répondre à cette question. D'abord, comment l'échec a-t-il pu être si rapide à Brooklyn? C'est complètement dingue. Cette super franchise là, qui avait quand même trois joueurs magiques, ça a volé en éclats. Bon, au gré de blessures, bien sûr. Hein.
Mais il y a eu des blessures, mais il y a eu 16 matchs en tout. Donc
comment ils peuvent avoir déjà fait une croix sur Harden, les Nets?
Ouais, c'est Harden qui a fait une croix sur Brooklyn.
Ouais, c'est plus ça. Ouais.
Plus que l'inverse. Hein.
Bon, il est fatigant.
D'ailleurs,
quand même,
son image était déjà écornée. Je crois qu'elle en prend encore un coup quand même. De redemander un trade là au bout d'un an, c'est chaud quand même.
C'était une attitude très très loin d'être irréprochable en dehors de l'équipe qui a fini par en gonfler plus d'un, dont un certain KD. Donc ça déjà pour le trio, ça mettait pas non plus dans les bonnes conditions. Et puis je pense surtout ça se joue sur le fait que Daryl Morey n'avait qu'une seule idée en tête depuis des années maintenant, c'était de récupérer
celui qu'il avait
son
bébé,
quoi. Ouais, c'est ça. C'est vraiment comme l'impression qu'il y avait aucun autre joueur dans la ligue qui existait à ses yeux à part James Harden. Maintenant, ce qui peut être intéressant, c'est que je crois que dans sa carrière, James Harden n'a jamais joué avec un pivot aussi fort à ses côtés.
Alors ça, on va en parler.
Que James Harden va être meneur pour les Sixers et ce que disait Stephen tout à l'heure était très très important, c'est que j'espère vraiment que l'arrivée d'Harden ne casse pas le petit joyau que les Sixers ont entre leurs mains qui s'appelle Tyrese Maxey. J'espère vraiment qu'il va pouvoir se développer avec le jeu sans ballon pour pouvoir jouer aux côtés d'Harden sans qu'il touche à ses minutes. Mais le grand gagnant, c'est Daryl Morey. Il a eu ce qu'il voulait. Il a eu son joujou, quoi. Il a eu son joujou. Et James Harden, lui, a eu ce qu'il voulait. C'est-à-dire quitter les Nets au plus vite.
Au passage, vous avez vu cette séquence folle où, de la draft du All-Star Game où,
oui,
LeBron James fait exprès de prendre Harden pour obliger Durant à le faire. Mais c'est une tête de cochon incroyable, ce Durant. Non,
il a pas été très funky sur
et très spécial quand même, hein.
À LeBron.
Parce que LeBron était là. Bon, franchement,
il était drôle
la séquence.
Oui, il rigolait.
Mais l'autre, il
est. Ça fait pas du tout rire durant cette histoire.
Ou alors c'est un rôle qu'il joue, un rôle de
tu voilà, crois
ouais,
non,
peut-être.
Je pense pas, non.
Ouais, je pense pas. Hein,
LeBron James l'a piégé, il s'en est régalé, c'est tout, non?
C'est ça.
Le pauvre Rudy, encore une fois, qui est aussi dans le. Bon, ballon, après, il a rien demandé.
Rudy, l'All-Star, c'est comme toi, Pierrot, quand tu faisais à l'école, là, on choisissait les équipes, t'es toujours dernier.
Soit, mais c'est pas pareil dans la cour d'école et All-Star Game.
C'est sûr.
Là, franchement, pour tous les pisses froids qui se moquent de Rudy, le mec est All-Star Game. Donc, quand t'es choisi en dernier. Du All-Star Game, tu fais partie des 15 meilleurs joueurs du monde, donc ça va tranquille quand même, non? Non, mais je trouve ça fou.
Mais évidemment, tu as raison.
On va pas quand même se plaindre d'avoir un joueur All-Star Game parce qu'il est choisi en dernier.
Je vais pas faire le calcul. 12 et 12, ça fait 24, Pierrot.
Oui, bon, d'accord, mais si tu veux, mais peu importe, tu vois ce que je veux dire. De toute façon, 15, c'était pas possible, c'est un chiffre impair.
Donc, pour revenir sur James Harden, déjà, je pense que James Harden a visé mal le fait qu'il joue plus meneur, en fait, que c'était Kyrie Irving, quand il est revenu, qui avait ce rôle de meneur de jeu. Maintenant, pour revenir sur la doublette Harden-Embiid, James Harden va devoir s'adapter à un pivot comme Joel Embiid. Il a jamais eu ça. Il a eu Clint Capella, qui était un mec qui faisait les écrans, qui roulait vers le cercle, qui faisait que des lobes et des alley-oops. C'est pas Joel Embiid, ça. Joel Embiid, tu l'envoies pas au-dessus du cercle en alley-oop en permanence. C'est un mec à qui tu donnes des ballons.
Mais là, il a assez de talent pour s'adapter à ça, peut-être.
Bien sûr. Et Joel Embiid va devoir se forcer aussi à jouer plus de pick and roll avec James Harden, parce que Joel Embiid, c'est pas non plus, il fait pas que beaucoup, énormément de pick and roll. Il a beaucoup le ballon dans les mains. Maintenant, je pense que ça va marcher. Ça peut marcher sur du court terme, c'est-à-dire que James Harden va vouloir s'adapter aux Sixers, s'adapter à Joel Embiid, faire briller Joel Embiid, et vice-versa, Joel Embiid va vouloir bien intégrer James Harden. Maintenant, jusqu'à quand les égos vont pouvoir cohabiter ensemble?
Je pense que ça peut durer sur la fin de saison, parce que concrètement, il a besoin de se racheter une image, James Harden.
Ouais.
Donc il va tout donner sur cette fin de saison, il va être le plus correct possible.
C'est possible. Après, James Harden, on parle beaucoup de son égo, c'est quand même un mec qui a accepté de venir à Brooklyn, sachant qu'il allait être l'option numéro 3, que Kevin Durant était le go-to guy, et qu'il y avait Kyrie Irving. Donc je me dis qu'il va être capable quand même de faire un petit peu profil bas, et d'accepter que ça soit Joel Embiid le go-to guy de cette équipe. Maintenant, James Harden, ballon en main, mine de rien, il faisait une petite saison, c'était 23 points, 10 passes, 8 rebonds de moyenne quand même avec Brooklyn. Ça reste un top 10 NBA et de très loin, James Harden. Donc ce duo, ce one-two punch, Pierrot, il fait peur.
Il y a 32 ans aussi, parfois ils changent les mecs. Hein. Ça s'est déjà vu, hein, que tu te redeviens un peu plus collectif pour gagner, tout simplement.
Ouais.
Hein. Fred, t'y crois?
Ben, j'ai envie d'y croire. Moi, j'aime bien l'idée d'associer un joueur comme Harden avec un pivot dominant, comme on en parlait tout à l'heure. Mais après, moi, la question que je me pose, c'est est-ce qu'il est vraiment remis de ses ischio-jambiers, James Harden? Est-ce qu'il peut faire ce qu'il faisait avant sur les démarrages, passer un peu les gars, parce que c'est important aussi, et aussi son adaptation au fait de jouer avec un big man, parce que effectivement, lui, il va vouloir pénétrer, faire ses trucs, ses step back, etc. Sauf qu'il va falloir donner beaucoup le ballon au go-to guy de cette équipe. Donc oui. Normalement, on t'apprend. Normalement, il devrait montrer des choses parce qu'il a besoin de se racheter une image. Mais est-ce qu'il va le faire? Il brille pas par son intelligence.
Il va devoir se réinventer un petit peu. Je pense qu'il va avoir beaucoup, beaucoup de catch and shoot, James Harden, parce que les ballons poste bas, Joel Embiid va être doublé, triplé.
Bien sûr.
Et il a une belle qualité de passe, le Camerounais. Donc, James Harden, plutôt que de faire des step back après 14 dribbles, il va falloir qu'il travaille ses catch and shoot parce qu'il va prendre des ballons dans des situations confortables pour allumer à 3 points. Et la bonne nouvelle, c'est que Tobias Harris va repasser 3e option. Et quand t'as Tobias Harris en 3e option dans une équipe,
ça fait mal.
Ça fait très mal, Pierrot.
Et alors, on peut dire que cette Curry, ça va être compensé. Enfin, point de cette Curie.
Maxi va basculer sur le
par l'arrivée d'Harden. Est-ce que l'apport de Drummond va être compensé par Millsap? Il est encore frais, Millsap? Il apporte encore quelque chose?
Écoute, il a toujours un beau dressing.
Pas convaincu par Paul Millsap, parce qu'il s'est littéralement fait largement doubler par LaMarcus Aldridge quand il était au Nets, qui lui avait déjà pris sa retraite et revenu, et il est quand même passé devant. Donc je suis pas sûr que ça soit plus Brooklyn qui s'en est débarrassé, histoire de sortir un salaire.
La vraie carence, c'est derrière Joel Embiid, en fait. C'est va falloir trouver un big man sur un buyout qui traîne dans le coin, sauf qu'il y a pas mal
c'est
de.
C'est sûr que quand t'avais Drummond, t'avais une sécurité à toute épreuve là.
Quand Drummond, c'est très impressionnant. Donc il y a Furkan Korkmaz aussi qui va devoir remettre le nez à la fenêtre avec des départs de cette Curry. Mais écoute, moi maintenant, je pense que les Sixers sont favoris à l'Est avec.
Ah, ils étaient déjà. Quand même, on y vient.
Ils étaient
Mais
Contender, avec... ils deviennent favoris. Je pense,
tu les mets devant Milwaukee, donc
50-50.
On n'oublie pas Ibaka, on en a parlé tout à l'heure. Ah, oui. Toi, Alex, tu dis quoi?
Je suis sur du 50-50, mais avantage Milwaukee quand même légèrement. Hein, pour
le seul problème, c'est qu'Embiid ne peut pas faire 40 minutes. Quoi. Enfin, il faut quand même un peu le préserver, ouais. S'ils ne veulent pas le répéter. Mais là, cette année, tout se passe bien, mais il ne faut quand même pas trop tirer sur la corde. Hein.
Il va falloir trouver un big man, ouais, qui sera des favoris.
Fred, par contre, ça va être compliqué.
Fred, tu peux avoir, regarde ton agent, si tu as retrouvé ton agent de l'époque, peut-être qu'il
est... Si tu tapais des mecs, ok, ça je peux faire.
Basket Time tous les mardis en podcast sur rmc.fr. Nous allons plonger dans l'histoire des trades.
Welcome back, everybody. My name is Tucker, and today's video is another episode in the Trade Rewind series.
Chaque année en NBA, la trade deadline est l'un des moments les plus intéressants et qui génère le plus de spéculation auprès des fans. C'est de Clyde Drexler dont il s'agit. De Glide, réputé pour son jeu aérien et son élégance sur un terrain de basket.
February 1st, 2008, Pau Gasol was traded by the Memphis Grizzlies with a 2010 second round pick that ended up becoming Devin Ebanks to the LA Lakers for Kwame Brown, Javaris Crittenton, Marc Gasol, Aaron McKee, a 2008 first round pick.
Alors vous avez reconnu Arnaud Valadon, cette fois-ci est parti au Canada. Vous avez reconnu,
il est vraiment partout.
Il est partout. Quel est le trade le plus marquant de l'histoire? Je vous pose la question dans cette partie historique de Basket Time. Alex, tu démarres. Alex, tu nous emmènes en quelle année? 1985, 1972?
Et là, en surprise, 2008. Ah, c'est bien. 2008, on ne revient pas si longtemps en arrière pour le trade de Pau Gasol aux Lakers, qui pour moi...
C'est le plus vraiment... marquant de l'histoire.
C'est vraiment l'un des tout plus marquants de l'histoire. Concrètement, pourquoi? Bon, déjà sur l'idée globale, c'est le trade qui a relancé les Lakers plus vite que prévu parce qu'il y avait le feu dans la maison Lakers. On rappelle hein, ces années de disette où Kobe Bryant pouvait mettre 35 points en moyenne par match, mais sauf qu'il y avait vraiment rien autour. Et surtout, les Lakers cette année-là qui avaient justement eu très peur de perdre Kobe en début de saison, il avait publiquement demandé eh bien son trade de pouvoir partir parce que les exigences qu'il avait eh bien n'étaient pas répondues par Mitch Kupchak, le GM. Et les Lakers ont trouvé, alors, à l'époque, ce que tout le monde a décrit comme les véritables pigeons de l'histoire, c'est-à-dire les Memphis Grizzlies qui avaient Pau Gasol. Et cette phrase qui, pour moi, marque vraiment l'importance de ce trade-là dans l'histoire, c'est surtout, eh bien, le propriétaire de l'époque, Michael Heisley, qui ne parlait jamais dans la presse, Pierrot, mais vraiment jamais, tu ne l'entendais jamais, et qui, à la sortie de ce trade, parle à propos de son GM de l'époque, Chris Wallace. Voilà, je le cite. Je doute fortement sur le fait qu'on ait gagné ce trade, qu'on ait même rajouté de la valeur à notre équipe. Notre staff aurait dû négocier bien plus durement. C'est d'ailleurs l'idée même d'une négociation, c'est de pouvoir être gagnant-gagnant. Est-ce que Chris a appelé tout le monde dans la ligue? Je ne crois pas, et il aurait dû.
Alors, rappelle-nous qui est-ce qui récupère, parce qu'il y a des sacrés lascars là. Il y a Kwame Brown dans le deal.
Alors, Pau Gasol rejoint les Lakers avec un tour de draft qui sera plus tard Devin Ebanks. Et du côté de Memphis, on récupère donc Marc Gasol, que personne ne connaît à l'époque dans la ligue. On oublie de le citer plusieurs fois quand on parle du trade à l'époque même. Il récupère Kwame Brown. J'ai pas besoin de m'étaler dessus, je pense. Javaris Crittenton, c'est absolument pareil. Il n'a jamais fait parler de lui à part des histoires d'armes avec Gilbert Arenas. Et quelques tours de draft qui seront plus tard. Dante Green, tu t'en souviens bien.
Bien.
Grévis Vasquez également.
Oh, Grévis Vasquez.
Voilà pour le deal.
Un personnage de série sur TF1.
On peut comprendre du coup un petit peu la colère du proprio Michael Heisley à l'époque. Mais
c'est fou, hein.
Ce qui est encore plus dingue dans ce trade, Pierrot, c'est qu'il y a un garçon... dont on ne parle jamais. C'est exceptionnel. Est-ce que toi, si je te proposais de pouvoir gagner 750 000 dollars sur une journée, tu accepterais?
Ça peut.
Eh ben, il a été dur à bouger, mais il a finalement fini par céder. Aaron McKee, vous souvenez, l'ancien coéquipier d'Allen Iverson au Sixers, qui est passé par les Lakers aussi. En fait, pour pouvoir compléter le deal, les Lakers avaient besoin d'un joueur supplémentaire et d'un contrat supplémentaire. Et Aaron McKee était, à l'époque, assistant coach aux Sixers. Coup de fil de Mitch Kupchak. Mec, il faut vraiment que tu nous aides. Je te propose de te signer pour un jour aux Lakers 750 000 dollars afin de compléter le trade de Pau Gasol.
Aaron McKee... Ils l'ont envoyé à Memphis et après quoi ils l'ont coupé?
Et Memphis le coupera le 9 mai 2008, 2 mois plus tard.
Donc en lui payant son salaire?
Ah bah bien sûr. 750 000 dollars.
Fantastique. Après, quelle plus-value. Il a repris sa place aux Sixers.
Voilà, il est reparti, assistant coach. Une belle tournée des affaires.
Sympa,
pour
tu fais le tour des États-Unis incroyable. Et tu prends 750 000.
Et pour finir, juste la petite note sportive, suite au trade de Pau Gasol, les Lakers finiront la saison sur un bilan de 29 victoires, 9 défaites et fileront en finale direct pour perdre face aux Celtics.
Très belle anecdote sur Aaron McKee. Stephen.
Ouais.
Alors là, attention, là, c'est Big Apple. Là, c'est...
Big Apple, 2011, le plus gros trade de l'histoire de la NBA avant la deadline.
Le plus gros en termes de salaire échangé.
12 joueurs sont impliqués dans le trade à 3 équipes, Denver, New York et Minnesota. Carmelo rejoint les Knicks. Alors, c'était étrange parce que Carmelo à Denver, ça fonctionnait bien. En 2009, ils font finale de conférence contre les Lakers. En 2010, ils perdent au premier tour. Et le management commence à parler de reconstruction dans l'équipe. Et là, Carmelo va voir le staff et dit, écoutez, moi, je suis dans ma septième saison NBA. On était en finale de conf il y a un an et demi. Hors de question que je fasse partie d'un projet de reconstruction. Donc, il va falloir trouver une porte de sortie. Donc là, on commence à discuter. Et donc, ce big deal arrive. Mais il n'y a pas Vincent Lagaffe dans le trade. Denver reçoit Wilson Chandler, Raymond Felton, Mozgov, Danilo Gallinari et des choix de draft. Quand les fans d'Enix ont vu ce qu'ils donnaient pour Carmelo Anthony, ils étaient tous en transpiration parce que New York faisait une belle petite équipe.
Rappelle-nous, Felton.
Felton, Wilson Chandler, Timofey Mozgov, Danilo Gallinari et des tours de draft.
Ah ouais,
cette équipe à New York tournait bien autour d'Amarest ou de Mayer, sauf que c'est pas assez clinquant pour Big Apple.
C'est trop collectif.
Trop collectif, donc on voulait un one-two punch, mon petit Pierrot. Et donc on fait venir Carmelo Anthony. Carmelo arrive à 26 ans dans son prime. C'était la star qu'il manquait aux Knicks. Sportivement, demi-succès, puisque les Knicks n'avaient pas fait les playoffs depuis 2004 avec Melo, ils vont les faire les trois premières saisons, passant un seul tour seulement. Puis après, aucune participation sur les trois autres années de Carmelo Anthony. Six fois, il sera All-Star, il a fait un match à 62 points. Et pour la petite histoire, trois joueurs dans ce deal sont devenus champions NBA. Corey Brewer avec les Mavs, Timofey Mozgov avec les Cavs et Eddie Curry en 2012 avec le Heat. Ouais. Melo, lui, il attend toujours le sien.
Ouais, bon, après, on va pas les comparer à Carmelo Anthony.
Je ne les compare pas, mais je dis que Carmelo, il n'a pas de bagouze.
Des grandes, grandes déceptions de toute façon de la NBA et Carmelo à New York.
À New York.
Ça
a bien fonctionné, ça s'est mal terminé.
Franchement, c'est pas le genre de truc qui sont obligés d'arriver, même si tu sais déjà que ça sera pas forcément.
Je suis un peu d'accord avec toi, ouais. C'est-à-dire, si tu as l'occasion de faire Carmelo à New York, bah, tu le fais, puis tant pis.
26 ans, le mec est partie des meilleurs scoreurs de la ligue, faut le faire, quoi.
Bravo. Fred, à toi.
Ben, nous, on est en 95. Les Houston Rockets sont champions en titre et ils commencent la saison. C'est un petit peu compliqué, ça se passe pas aussi bien que prévu. Pourtant, ils voudraient faire le back-to-back, c'est compliqué. Et donc, ils contactent un joueur, Clyde Drexler, qui a joué 11 ans à Portland. Qui
fin de carrière.
Pardon ?
Qui arrive en fin de carrière.
Qui arrive en fin de carrière, ouais. Enfin, il a 31 ans, hein, c'est pas non plus... Il est quand même sur le déclin, effectivement. Il a des blessures, ça se passe pas très très bien, donc c'est un peu compliqué au départ. Et donc, il l'intègre à cette équipe. Mais en fait, lui, son souhait, c'était de jouer avec son pote. Son pote, parce qu'il est accumulateur round, et lui avait partagé des heures pendant la NCAA. Mm-hmm. Et il a un point commun, ils ont un point commun d'ailleurs avec Stephen. Ils ont joué pour des Cougars aussi, eux. Les Cougars de Houston.
Ah non, si, c'est les Cougars. Ah non, si, c'est les Cougars.
Ah d'accord, ils ont joué avec Mike Young. Tu parlais de sa vie privée, moi.
Et ouais. Ouais. Et donc, c'est un trade qui est un peu compliqué parce qu'ils sont obligés de sacrifier du côté de Houston Otis Thorpe. Mm-hmm. Donc, un vrai joueur. Alors, il y a Mercer Nicolas aussi, un premier tour de la draft 95 contre Tracy Murray et donc Clyde the Glide Drexler. La saison régulière est très compliquée. Ils sont à moins de 50% ou à peine à 50% de victoire sur la saison régulière. Mais après, il arrive les playoffs. Et là, on retrouve Clyde the Glide. Il retrouve une jeunesse. Hakeem Olajuwon est juste monstrueux. On s'en rappelle tous. Clyde the Glide en playoffs, c'est 20,5 points, 7 rebonds, 5 passes. Et finalement, il se retrouve en finale contre Orlando, qui se fait sweeper. Encore une fois, on se rappelle de la démonstration d'Hakeem Olajuwon. Mais il faut se rappeler aussi de l'apport hyper important de Clyde Drexler. 21,5 points, 9,5 rebonds, 6,8 passes pour cette finale. Et il faut aussi se rappeler que c'est l'équipe la plus mal classée à avoir été championne en titre, parce que avec ce trade, ils ont réussi à être champions.
Et c'est aussi la preuve que parfois ça marche. Ces moves désespérés de fin de carrière... Pour aller gagner une bague, Clyde Drexler l'a fait.
Ça n'a pas marché pour Carmelo.
Ça n'a pas marché pour beaucoup de monde. Hein.
Ça n'a pas marché pour Charles Barkley. Ça n'a pas marché pour...
Plus souvent, ça ne marche pas. Hein.
Non. Pour Gary Payton, ça a marché pour Gary Payton. À Miami, non ?
À Miami, ouais.
Basket Time, tous les mardis en podcast sur rmc.fr. Vous vous abonnez hein, si vous voulez ne rater aucune blagounette de Stephen, ni aucun quiz. C'est parti. Et alors là, je suis très content de ma trouvaille.
Il se prend pour Julien Lepers.
Ma main, Kyle Quinn.
Qui était le coach du coach à l'université, pardon.
Coco-coach.
Coco-coach, absolument. Qui est le meilleur, quoi?
Meneur. Scoreur.
Non.
Meneur, scoreur.
Mais non.
Le merde.
Mais non.
Le merde.
Mais non.
Le merde.
C'est pas un esthète du visage, qu'est-ce que c'est ton problème, hein?
Un esthète du visage.
On sait pas s'il est droitier ou gaucher. Ousmane Dembélé.
Mais non.
Le merde.
Mais non.
Le merde.
J'aime plus si je suis gaucher ou droitier. Ça devient trop long. Ça va falloir le réduire. Ce jingle. Alors, c'est un quiz spécial trade. Bon, je vous dis, j'ai transpiré pour le faire. Alors, j'espère que vous n'avez pas transpiré pour trouver les réponses. Parce que un quiz spécial trade, bon, c'était pas simple. Alors, on va trouver
qu'est-ce
une nouveauté. On va trouver une petite nouveauté. Je vous donne une moitié de l'échange, vous devez trouver l'autre moitié. Ça vous va, ça?
T'as toujours été un mec des échanges, toi.
Ouais, j'aime beaucoup les échanges parce que je suis un garçon
collectif. T'as fait Erasmus?
J'ai pas fait d'Erasmus, mais j'ai eu des correspondants.
T'as eu des correspondants?
Un anglais et un italien.
Gentil?
Alors, gentil, mais bon, il y en a un des deux qui s'est avéré raciste, mais je me suis rendu compte que une fois sur place, ouais. C'est pas beau ce que tu fais, Steve. C'est pas beau. Bref, on n'est pas là pour parler aux échanges Erasmus. Alors, je vous donne une partie de l'échange, vous me donnez l'autre partie. Vous êtes prêts? Est-ce que tout le monde a compris la question?
Oui, carrément.
C'est ça, parfois, Steve a toujours pas compris l'histoire des majuscules au milieu du nom et du prénom.
Mais vu comme ça reviendra pas sur le tapis, ça me dérange pas.
Alors, voici donc une partie de l'échange. À vous de me donner l'autre partie. On démarre. C'est parti donc. Sébastien Telfair. Ryan Gomez.
Minnesota.
Gerald Green. Theo Ratliff. Et Al Jefferson. Plus deux premiers tours de la draft 2009.
C'est Minnesota. Tous les joueurs, c'est des
Minnesota. Minnesota, tu l'as.
Ils ont tradé pour
et donc, qui est l'autre moitié? Alors, sachez que 1, 2, 3, 4, 5 joueurs plus deux premiers tours de draft en échange d'un seul joueur.
C'est Kevin Garnett.
Excellent.
Kevin Garnett
en 2007. Bravo, bravo Alex. Kevin Garnett en 2007.
Ouais, Al Jefferson, il était à Boston en fait. À
l'époque. Ouais. Ouais. C'est le seul bon joueur de cet échange, non?
Attends, j'ai rien compris, Pierrot. J'ai vraiment rien compris.
Il faut trouver le joueur qui complète le trade.
En fait, c'est un trade. Et d'un côté,
parce que là, tu vas citer que des joueurs de Minnesota.
Voilà.
Mais sauf que Garnett, il était à Minnesota.
Et non, mais non, ils font le chemin inverse. Ils vont de Boston à Minnesota pour en échange de Kevin Garnett en 2016.
Ils étaient à Boston avant.
Ok, ok.
Donc je savais bien que fallait poser la question. Est-ce que tout le monde a compris?
Il faut juste citer le joueur, pas forcément l'équipe dans le trade.
Non, Kevin Garnett, c'était la réponse. D'accord, que j'attendais. Okay. Ouais, absolument. Donc ça se passe en 2007. Et donc on a ce fameux trio Allen, Pierce, Garnett qui apporte un titre à Boston. Non, on rajoute Rondo si tu veux, mais la question porte sur ces trois-là, Allen, Pierce, Garnett. Comment a-t-on surnommé ce trio?
Le Big Three?
Et non, c'est pas le Big Three, mais il y a Three dans le...
Les Three Amigos. Non,
Les Amigos.
Non, c'est Miami, ça.
Ah oui.
Vous l'avez pas?
Non.
Alors, c'est un nom de chanson qui doit être, je suppose, célèbre à Boston.
Ménage à trois?
Non, c'est le. Vous l'avez pas, on est d'accord?
Non.
Le Boston Three Party.
Boston Three Party.
Et au moment de la présentation, ils avaient fait un faux clip où ils cherchent un nom.
D'accord.
Avec.
C'est la partie du quiz.
Ouais, bien sûr. C'était la deuxième question, donc on en reste à un point pour Alex. Alors, on reste toujours sur cet échange, donc Garnett Minnesota Celtics. Il récupère
T'as beaucoup cherché, mais t'as beaucoup cherché sur le même truc en fait.
Il y en a d'autres, vous inquiétez pas. Alors, donc il y a ces deux premiers tours de la draft 2009 qui sont récupérés et en 2009, Minnesota a 4 choix au premier tour.
Ricky Rubio, Johnny Flynn. C'est les choix de David Kahn, ça, non?
Enchaîne, vas-y, continue.
Ouais, Ricky Rubio, Johnny Flynn, les deux autres, je ne l'ai pas, je suis désolé.
Ty Lawson, envoyé à Denver, et Wayne Ellington, le point, c'est pour Stephen, parce que la question, c'était, est-ce que vous pouvez me donner un joueur drafté au premier tour en 2009 à Minnesota? J'ai même envie de te donner 2 points.
Non, un, je prends.
Ok. c'est catastrophique, les choix, non? Ricky Rubio, Johnny Flynn, Ty Lawson, Wayne Ellington.
C'est la théorie, non, dans la draft, il me semble.
En 2009, à vérifier.
I think so, my friend.
Ok. Mais c'est triste, non?
Le problème, c'est qu'il a pris 3 meneurs déjà.
Ricky Rubio en 5ème.
C'est pas l'année où il loupe Steph Curry en plus?
Blake Griffin en 1. C'est pas l'année où il loupe quoi?
Il loupe pas Steph Curry,
c'est ce qu'il vient de dire. J'ai enlevé un point à Alex.
Dans cette draft, il y a ton pote.
Lequel pote?
Tabit.
Ah, Hachim.
Hachim.
C'est Blake Griffin qui est choisi premier et Tabit deuxième, absolument. Il y a DeMar DeRozan aussi qui est choisi en neuvième position. Ils ont raté Jrue Holiday.
DeMar DeRozan, Steph Curry.
C'est fou, non?
Ah, c'est ouf. Bravo, bon. David Kahn.
Ensuite, donc ça fait un point pour Steve, un point pour Alex. On recommence, je vous donne une partie d'un trade, vous me donnez l'autre partie. C'est bon, Stephen?
C'est le même que la première question.
Voilà, c'est le même principe, mais évidemment...
Une bonne soupe au chou, hein, ce quiz, quand
même. Là, il ne faut pas répondre Kevin Garnett, par contre.
Bah là, non, ce ne sera forcément pas Kevin Garnett. Donc, voici les joueurs d'une partie du trade. Dylan Wright, CJ Miles,
Toronto Indiana,
et Jonas Valanciunas.
Toronto Memphis.
Steven Adams. C'est Memphis, Toronto...
Quelle est l'autre partie, donc, du trade? Vous avez les,
donc
vous avez ça, les franchises.
Ça, c'est Memphis qui, c'est les joueurs des Memphis qui partent aux Pelicans, non? C'est
pas ça? Non, pas aux Pelicans.
Toronto, des joueurs de Toronto qui partent à Memphis.
Marc Gasol.
On se range, voilà. On
ah oui,
c'est Marc
Gasol 2019.
Bravo, bravo Fred. Marc Gasol 2019.
Oui. Et il finit champion.
Très important.
Trop complexe dans ma tête ce jeu.
Trop complexe.
Ouais.
Bon, écoute, on va essayer de faire plus simple alors pour finir. Parce que tout le monde est à un point, mais très important quand même dans le titre des Raptors. Alex.
Ah oui.
Ah bah oui. Puis Marc Gasol qui te Memphis après je sais pas combien de campagnes de playoffs et qui va gagner un titre en fin.
Memphis c'est les rois des trades quand même. C'est assez puissant.
La doublette Ibaka Gasol.
Elle est plus facile. Alors on parle pas de trade deadline, hein, on parle de free agency comme disent les Américains.
Wow.
Qui sont les deux joueurs qui s'engagent en tant que free agent avec les Lakers en 2003? Gary Payton, Karl Malone. Bravo. Qui rejoignent Shaquille O'Neal et Kobe Bryant et qui perdent en finale contre Détroit. 4-1. Ça fait 2 points pour Alex. Mais il reste des questions.
Super.
Tu peux te réjouir, Stephen. Je vous donne une partie du trade. Vous me donnez l'autre partie. OK? Joe Smith et André Miller.
Alors, déjà, ça, c'est Minnesota.
C'est Portland. Nicolas. Joe Smith ou Golden State Warriors.
Denver. C'est Denver. C'est
Denver.
Et c'est pour...
Direction. Si je vous donne la franchise, ça va fuser. Hein.
C'est Chris Webber? Non.
Non. Alors, je vous donne l'année peut-être avant, en 2006.
Joe Smith et André Miller.
Allen
Iverson.
Allen Iverson, mais il a... Qu'est-ce que je fais?
Non,
Fred,
Alex.
Qu'est-ce que je fais?
Non, c'est Alex qui a le point.
J'ai dit Allen Iverson, non.
Il s'est arrêté au milieu du guet, il a dit non. Et alors, c'est effectivement le transfert d'Allen Iverson, donc de Philadelphie à Denver en 2006. Est-ce que vous êtes capable...
Ils sont bien sortis, Philly.
...de me donner l'autre joueur qui accompagne Iverson? Un inconnu total.
Eric
inconnu.
Snow.
Inconnu au bataillon. Non,
Joel Prisbilla.
Il s'appelle... Ivan McFarlane.
Il a joué à Nanterre.
Et c'était la dernière question, bravo Stephen. Il a joué à Nanterre en Pro B en 2005. Il passe de Nanterre à Philadelphie. Qui c'est ce mec?
C'est un intérieur.
Ivan McFarlane.
McFarlane.
Une petite carrière, toute petite carrière.
Bah, t'as joué à Nanterre, c'est une petite carrière ça?
Non, mais en Pro B quoi.
Fred, dis quelque chose par pitié.
Non, rien.
Donc tu l'avais pas, Ivan McFarlane?
Non.
Mais
non.
Bah tant pis pour toi, mais c'est quand même Alex qui gagne le quiz. C'est fini, ouais.
Hey, t'as quand même tout fait pour qu'il le gagne, hein. Je suis content.
Non, c'est toi qui as gagné le quiz, Alex. Bravo,
bravo
à la semaine prochaine.
Bravo, McFarlane. On a noté le Super Bowl en début d'émission. Je vais noter ton quiz. Je vais mettre 7 sur 20.
Ouais, là.
Est-ce qu'on peut dire que c'est le pire de l'année?
Et Prince, c'était en 2007 pour le Super Bowl. C'était pas dans les années 90.
À la semaine prochaine.
Sean Prince.
Sean Prince.
RMC Basket Time. RMC Football. Samedi à 15h au stade de la Mosson à Montpellier, c'est la finale de la Coupe de France féminine. Le Paris Saint-Germain affronte le FC Fleury 91 pour un match au sommet. Qui décrochera le titre? Réservez vos places sur billetterie.fff.fr. PSG Fleury, finale de la Coupe de France féminine, samedi à Montpellier avec RMC.